souvent on est appelé à répondre à des problématiques sociétales comme, comme ce qu'on vient d'aborder, là, plus ou moins directement. Il y a Pascal pourra faire l'illustration, par exemple, de la problématique des maladies émergentes en forêt, pour en parler. Moi, je peux vous parler, par exemple, de la problématique de la séquestration du carbone dans les sols, par exemple. L'idée, c'est on produit de plus en plus de CO2 et de gaz à effet de serre, hein, qui contribuent au réchauffement climatique. Notre ancien ministre avait proposé donc un projet, ce qu'on appelle 4 pour 1000, c'est fixer 4 pour 1000 du carbone dans les sols. Et en fait, en fixant ça, on peut compenser les dégagements de CO2 dans l'atmosphère. Bon, ça, c'est sur un modèle très simple. Mais en tout cas, un des objectifs, effectivement, et ce qu'on nous appelle à faire, par exemple, c'est réfléchir à des modes de gestion et à comprendre le cycle du carbone en forêt, par exemple, et comment mieux gérer la forêt pour augmenter le stockage de carbone dans les sols, en plus donc du stockage dans les arbres, hein, parce que les arbres stockent du carbone, mais on en déstocke aussi, parce que quand on coupe, et quand on coupe abondamment, après, bon, ce bois est transformé, il repart en CO2 dans l'atmosphère. L'idée, c'est de réfléchir donc, à du stockage, par exemple, de carbone dans les sols, par exemple, à travers la sélection de certaines essences qui fonctionneraient avec certains types de micro-organismes, qui accumulent plus de carbone dans les sols que d'autres micro-organismes. Les essences, on parlait des essences tout à l'heure des arbres qui sont en interaction avec les champignons ectomycorhiziens, ceux-là vont fixer plus de carbone dans les sols que les champignons endomycorhiziens, les essences qui poussent donc avec les champignons endomycorhiziens. Et il y a les maladies émergentes, ça c'est vraiment un problème très important aussi en forêt.
Oui, alors dans mon équipe, on travaille sur les maladies des arbres, et parmi ces maladies, si on regarde les 15 maladies principales en forêt sur toute la France, il y en a plus de la moitié qui correspondent à des organismes qui ont été introduits au cours des 100 dernières années. Donc ça, c'est une des conséquences du changement global, c'est-à-dire de la mondialisation. Les échanges de personnes et de marchandises à l'échelle du globe se sont intensifiés de façon exponentielle au cours du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc il y a énormément d'échanges, y compris de matériel végétal, mais aussi de marchandises. Alors un truc qu'on n'y pense jamais, c'est tout ce qui arrive par des gros porte-containers venant d'Asie ou d'Amérique, c'est tout sur des palettes. Et les palettes, c'est fait en quoi? C'est fait en bois. Donc il y a une législation extrêmement précise sur le traitement des palettes pour qu'elles ne transportent pas d'insectes xylophages, donc des insectes qui attaquent les arbres, ou de champignons. Donc les palettes doivent être traitées selon des normes internationales qui sont décidées au niveau de l'OMC et d'instituts qui se chargent de la réglementation du commerce de matériel de transport, donc des palettes. Et puis les palettes, les marchandises sont déballées dans les magasins, dans les supermarchés et tout, et les palettes, on sait bien tous que les palettes finissent souvent au fond des jardins, dans la nature ou ailleurs, enfin, retournent dans l'environnement. Donc il suffit qu'il y ait une larve d'un insecte très dangereux pour les forêts européennes, par exemple, qui se trouve dans une palette, pour que s'il y a quelques palettes qui sont, disons, dispersées dans l'environnement, on ait un risque de dissémination. Et malgré tous les contrôles et la réglementation extrêmement stricte sur les palettes, tous les ans, il y a des interceptions de, alors pas tellement de champignons, mais surtout d'insectes, ou parfois d'autres organismes qui attaquent les arbres, comme des nématodes, qui arrivent en Europe. Il y a eu un cas, par exemple, du capricorne asiatique qui a été importé près de Strasbourg, avec des pierres de taille qui venaient de Chine. Et donc, forcément, les pierres de taille étaient sur des palettes. Les palettes finissent au fond sont stockées, entassées dans l'entreprise. Donc, c'est au niveau du port du Rhin. Heureusement, il y avait des entomologistes amateurs qui connaissent très très bien les insectes, qui ont repéré cet insecte-là qui avait commencé à se disséminer sur les arbres de Strasbourg. Quoi. Et on est à vol d'oiseau, à moins d'un kilomètre du parc de l'Orangerie. Et donc, il y a des mesures extrêmement drastiques qui ont été prises avec un périmètre de 300 mètres où tous les arbres ont été abattus autour du point sur lequel était entré ce capricorne asiatique. Normalement, touchons du bois, si en 2018 il y a pas de, on n'en trouve pas, normalement ça devrait, ça fera 4 ans qu'il n'a pas été trouvé et donc on pourra considérer qu'il a disparu à cet endroit-là. Ceci dit, il y a eu d'autres points d'entrée en France et il y a un foyer en France qui est hors de contrôle, c'est-à-dire qui n'est plus, où on a trop tardé et la bestiole s'est déjà disséminée. Donc c'est un coléoptère qui pond ses œufs sur les arbres et les larves font des trous dans les arbres et donc les arbres finissent par casser. Quoi. Et donc c'est un organisme qui n'existait pas en Europe à l'origine. Alors sur les maladies, pour les choses que je connais un peu plus et qu'on fait dans notre laboratoire, on a régulièrement, tous les 5 ans, 10 ans, on a une nouvelle maladie qui apparaît en Europe qui n'était pas connue. Donc vous avez peut-être entendu parler, certains d'entre vous, d'une nouvelle maladie du frêne qui est arrivée il y a quelques années, la calarose du frêne, sur laquelle on travaille dans notre unité. Donc c'est une maladie, c'est un champignon qui est responsable de cette maladie, qui est arrivé d'Asie. Alors au début on ne savait pas d'où il venait, en tout cas ça a commencé à apparaître dans les années 90 en Pologne, puis il s'est répandu sur toute l'Europe, enfin vers l'ouest. Il est arrivé en France, dans le nord-est, en Haute-Saône en 2008, et puis progressivement il colonise à raison de 50 km par an. Donc là actuellement vous allez sur le site du ministère de l'Agriculture, vous avez les cartes mises à jour tous les ans, on a à peu près la moitié de la France qui est couverte en tirant un trait entre, disons quasiment la Normandie et Grenoble, tout ce qui est au nord et à l'est de cette ligne est contaminé, et donc la moitié, disons sud-ouest, n'est pas encore contaminée. Au début, on ne savait pas d'où ça venait. On savait que notre laboratoire a contribué à montrer que c'était un organisme exotique et non pas un organisme qui existait en Europe. Parce que certains pensaient que c'était un organisme qui existait en Europe, qui aurait un petit peu changé et tout. On a montré que ce n'était pas le cas, que c'était un organisme exotique. Par contre, on ne savait pas d'où ça venait. Il y a un certain nombre de chercheurs dans le monde qui se sont dit « Ah, il y a une nouvelle maladie en Europe, c'est en train de décimer quasiment tous les frênes. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça vient de chez nous ?» Donc, il y a un certain nombre de chercheurs en Amérique, en Asie, etc., qui ont recherché sur leurs frênes locaux, leurs frênes indigènes, et il y a un japonais qui a trouvé que sur le frêne qui est présent au Japon, le frêne de Mandchourie, qui est présent en Chine, Corée, Japon, il a trouvé des toutes petites taches sur les feuilles que personne n'avait jamais décrites comme une maladie du frêne. Et en prenant ces taches sur les feuilles, il a fait une analyse d'ADN et en fait il a trouvé que c'était le même champignon qui arrivait en Europe. Et ensuite il y a eu un certain nombre de recherches qui ont été faites sur les causes éventuelles d'introduction. Il semblerait que ce soit les Russes à l'époque de l'URSS qui avaient transplanté des frênes de Mandchourie de l'est de la Russie, c'est de la côte au niveau de la Corée, transplantés dans les pays baltes, en Lituanie et puis en Pologne dans cette région-là, en toute bonne foi, puisque la maladie n'était pas décrite. Donc ils ont, comme notre arboretum est constitué d'arbres venant de différents continents, ils ont déplacé un frêne asiatique en Europe, et malheureusement ils ne savaient pas qu'il y avait cette maladie sur ce frêne puisque ça n'avait pas été décrit. Le frêne asiatique, il était habitué à la maladie, donc en fait il n'était pas vraiment malade, il avait réussi à se défendre. Pour répondre à votre question, le frêne asiatique se défend contre cette maladie. Par contre, le frêne européen, lui, ne connaissait pas la maladie. Donc, on dit que c'est un hôte naïf. Il ne connaissait pas la maladie. Il n'avait pas coévolué avec la maladie. Et malheureusement, le frêne, le frêne commun en Europe, il est très sensible à cette maladie. Et il y a 95% des arbres qui sont sensibles. Alors, il y a quand même entre 1 et 5% des arbres qui peuvent être résistants, heureusement. Et donc, actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quasiment tous les arbres qui sont malades. Et puis de temps en temps, on voit quelques arbres résistants dans le paysage, qui sont surtout dans un contexte où tous les voisins sont malades. C'est ces arbres-là sur lesquels on fonde beaucoup d'espoir, parce qu'ils vont faire des graines, et leurs descendants seront en partie résistantes, et ça va reconstituer une nouvelle population de frênes. Par contre, dans les parcelles forestières où il y a plus de 50% de frênes, voire des fois 100% de frênes, quasiment tout, il y a 95% de ces frênes-là qui sont condamnés à faire. C'est une maladie qui a un impact un peu similaire à celle de la graphiose de l'orme dans les années 70. La différence, c'est que la graphiose de l'orme, c'était 100% des arbres qui étaient sensibles. Donc quasiment, il n'y a aucun arbre qui était résistant. Il y a eu des travaux également dans notre laboratoire de sélection, alors là pour le coup, de croisement entre des ormes européens et des ormes asiatiques, de façon à créer des nouvelles variétés d'ormes résistants, mais pas pour planter en forêt, parce qu'il y a trop peu de variétés résistantes qui ont été sélectionnées et, mises sur le marché, homologuées. Il y a deux variétés actuellement qui sont commercialisées, et c'est surtout pour des plantations urbaines. Donc l'orme en vie, si vous allez dans les villes de Metz ou Nancy, vous voyez des ormes totalement résistants à la graphiose, c'est des travaux de sélection de l'INRA de
champion. Pour parler de sujets à la mode,
il y a des gros appels à projets, même à l'échelle européenne, sur
de la lutte biologique, du biocontrôle des plantes, et donc faire de la co-sélection en fait de certaines variétés de grandes cultures ou horticoles, sélection conjointe avec un consortium microbien, donc de bactéries en particulier, qui conférerait une certaine protection face aux attaques des pathogènes. Ça, c'est un axe de recherche en pleine explosion, avec aussi des perspectives de réduction d'intrants chimiques.